Bonjour cher internaute, je vous propose aujourd'hui la méditation d'un texte connu, mais j'espère qu'il nous réservera encore beaucoup de surprises ensemble. Alors je vais d'abord faire un commentaire après la lecture, et ensuite, nous aurons un petit temps de prière. Alors il y aura peut-être des temps de silence, mais n'arrêtez pas l'enregistrement. Utilisez ces temps de silence pour faire votre la prière que j'ai faite, pour prier vous-même de manière plus spontanée. Et vous n'éteindrez l'enregistrement que quand vous entendrez fin de l'enregistrement. Mais avant de lire le texte, je vous propose une prière pour vraiment que l'Esprit Saint nous aide à faire de ce texte une nourriture. Je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole. Oui, comme l'a écrit le sage dans le psaume, dessille mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta parole. Le texte que nous allons lire, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23, versets 35 à 43. En voici la lecture. On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée. Il lui disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors nous avons là un texte bien connu. D'ailleurs, au fur et à mesure du commentaire, si vous avez imprimé le texte qui est disponible sur le site, vous pourrez le relire et vous référer au verset que je cite. Alors, ce texte est fondamental parce qu'il nous fait comprendre en profondeur les conséquences et la signification de la croix du Christ. Parce que pour nous chrétiens, on met la croix au centre de notre foi, on dit que la croix c'est le message, avec la résurrection bien sûr, hein. Mais disons, on dit passer par la croix, etc. Mais est-ce que l'on comprend bien pourquoi la croix du Christ est-elle si importante? Ce texte va nous aider à nous éclairer sur ce point. Alors d'abord, il faut savoir que l'incarnation, et donc la crucifixion qu'en est la logique, si on peut dire, eh bien, elle trouve sa source dans l'amour infini de Dieu, qui, comme tout amour, ne peut aimer que des gens libres, dont il respecte la liberté. Et, si vous voulez, pour respecter la liberté, comment amener des gens à Dieu tout en respectant leur liberté? Pour Dieu, si j'ose dire, c'est un cas d'école. Il est tellement puissant qu'il lui serait facile de forcer la main à ses créatures pour l'adorer. Et pour que vraiment ça soit en toute liberté que les créatures puissent adorer et aimer Dieu, il faut que l'homme, en l'occurrence, soit sauvé par un homme. C'est comme ça que l'on respecte pleinement la liberté de l'homme. Et
tout l'Ancien Testament et cette démarche, cette préparation, mais c'est aussi cet immense échec. C'est ce que Paul nous rappelle avec l'échec de ce qu'il appelle la loi, qui n'est autre finalement que l'Ancien Testament, notamment les 5 premiers livres de notre Ancien Testament. C'est donc cette immense, on va dire, préparation, mais qui débouche sur un constat d'échec, si l'on peut dire, c'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à aider Dieu suffisamment pour que Dieu puisse aider l'homme de manière efficace tout en respectant sa liberté. Alors, finalement, Dieu a une solution, hein, si je puis dire. Il décide de se faire homme, en prenant vraiment l'humanité avec ses faiblesses et ses limites. Et il se fait homme en Jésus-Christ pour qu'un homme sauve les hommes. Et comme Jésus-Christ va pleinement réussir à vivre une vie d'obéissance au Père, eh bien, la grâce de Dieu pourra enfin s'écouler par la mort de cet homme qui, librement, a aimé les autres hommes jusque dans leur plus grande mesquinerie, faiblesse, détresse, ce qui aboutit à la croix, comme nous allons le voir plus en détail bientôt. Eh bien, l'homme, donc, par ce sacrifice d'un homme libre, librement, eh bien la grâce de Dieu peut enfin s'écouler à flot pour l'humanité. C'est-à-dire qu'un homme a librement donné sa vie par amour pour les autres hommes, aidé qu'il était par le Père en l'Esprit Saint, mais c'est bien librement et dans les faiblesses de l'humanité, puisque Jésus dans Golgotha dit « Si tu pouvais enlever de moi cette coupe », et il dit aussi « Je suis triste à mourir ». Donc Jésus a connu l'angoisse, hein, ces gouttes de sang. Donc c'est librement, en tant que véritable homme, qu'il aime les hommes, et par cet amour humain qui reflète parfaitement en un être humain l'amour de Dieu, eh bien la grâce de Dieu peut enfin s'écouler. Et ce texte nous montre vraiment la profondeur de l'amour de Dieu et du sens de la croix. Parce que on pourrait se demander, Jésus s'incarne, donc le Verbe fait chair, donc cet agir de Dieu, hein, je ne vais pas trop faire un cours sur la Trinité ici, mais Dieu qui se pense lui-même, ne peut pas se regarder de nombril, donc Dieu se pensant lui-même ne peut qu'engendrer un autre lui-même qui se donne en communion avec lui, parce que Dieu quand il se pense ne peut que se donner, c'est l'engendrement du Fils de toute éternité. Donc ce Verbe, cet agir de Dieu qui se prolonge pour l'être humain, hein, cet agir de Dieu qui est le Verbe, Jésus se fait chair. Donc pourquoi fallait-il qu'il meure sur la croix? On aurait pu imaginer un Jésus qui s'incarne, certes qui connaît des difficultés, parce qu'on se doute bien que le message de Dieu n'est pas accueilli, les bras ouverts, parce qu'il contredit tellement de choses en nous, il va à l'encontre de tellement d'égoïsme, de tellement de peur. Et alors pourquoi la croix? Eh bien, il faut savoir que, d'abord, il faut, comme le dit Paul en Éphésiens 6, être conscient que tout être humain qui se met au service de Dieu lutte aussi contre des forces invisibles. Le mal se déchaîne, le malin, les démons, donc le mal se déchaîne, menacé qu'il se sent, on le voit bien avec les démons, hein, quand Jésus fait des exorcismes, le mal se déchaîne, et il se déchaîne à un tel point que il exploite toutes les failles que l'homme lui donne pour se déchaîner par l'homme sur Jésus-Christ, ce qui aboutit à une telle haine. Si vous voulez, Jésus-Christ se donnant par amour, il a été tellement en profondeur dans toutes nos peurs, dans toutes nos médiocrités, que notre réaction, disons, n'a pu que ouvrir la porte au mal qui s'est ensuite déchaîné jusqu'à la croix. C'est pas facile à expliquer, mais on peut dire que l'incarnation ne pouvait déboucher que là-dessus, puisque l'homme est devenu tellement différent de ce qu'il était au départ, il a tellement chuté, il est tellement loin de Dieu, que quand Dieu lui montre le chemin par un autre homme, hein, Jésus-Christ, son incarnation, quand il montre le chemin, eh bien l'homme se fait menaçant parce qu'il se sent à tort menacé, et il devient complaisant, l'homme envers les démons et les forces du mal. Et donc tout se déchaîne contre Jésus et ça aboutit à la croix qui, rappelons-le, est le pire supplice qui existe à l'époque. Donc Jésus a dû, pour nous sauver, connaître la lie de l'humanité, souffrir le pire qui puisse être. Voilà, il a dû descendre au plus bas pour nous mener au plus haut. Donc, retenez ça, le Christ descend au plus bas pour nous mener au plus haut. Alors maintenant, rentrons plus en détail dans ce texte. Alors ce qui est d'ailleurs étonnant, il y a deux choses qui font que le Christ, l'amour du Christ est mené à son comble et, comment dire, est poussé à l'extrême et il est tenté, je veux dire, il est, je trouve pas le mot, mais l'amour du Christ ici est un peu comme un élastique qui est tendu au point de casser. Donc il est testé jusqu'au bout par deux choses. D'abord l'indifférence et l'incompréhension des hommes. Le tout début dit que le peuple restait là à regarder. Donc il y a d'abord ceux qui ne comprennent pas et qui sont visiblement indifférents et passifs. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aimer quelqu'un qui reste indifférent à vos gestes d'amour, mais c'est très très difficile et il faut toute la force de Dieu pour y arriver. Quel amour surhumain au sens propre du terme faut-il pour aimer quelqu'un qui n'est pas aimable en ce sens, qui montre aucun signe d'apprécier votre amour ou la réciprocité. La deuxième source, je ne sais pas si c'est les pires, donc l'indifférence, mais en tout cas, elle se cumule, vous vous rendez compte, la tension, voilà c'est le mot, la tension que l'amour du Christ a subie, eh bien il y a l'hostilité. L'hostilité jusqu'au sentiment que finalement, ce sacrifice est bien inutile. Pardon, excusez-moi. Oui, parce que justement, le Christ ici, on lui reproche soit de ne pas se sauver lui-même, c'est-à-dire d'abandonner son projet d'amour fou pour les hommes. Il y a même un des deux larrons, comme on les appelle de manière classique, traditionnelle, qui lui demande de les sauver, de se sauver, les sauver en même temps. Donc, c'est-à-dire, sauve-nous comme nous le voulons par ta puissance pour nous remettre dans cette vie de nous sauver que pour cette vie-là, que pour la richesse et la gloire. Montre-nous ta force. Finalement, les pharisiens, la foule, le larron, disent à Jésus, en d'autres termes, nous ne comprenons pas que ta puissance se manifeste dans l'amour, c'est inutile, nous n'en voulons pas, agis donc comme le Messie que nous attendons, montre ta puissance, et impose-toi, et puis surtout, prends-nous avec toi, et fais-nous partager cette puissance et qui est écrasante et qui écrase les autres. Quand on sait que le Christ donc est venu pour manifester l'amour de Dieu, parce que comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la première, la force de Dieu se manifeste dans l'amour, qu'il appelle même faiblesse, qui est plus forte que la force de l'homme, eh bien Jésus donc ici, lui, il décide de manifester cet amour du Père jusqu'au bout, entre parenthèses disons que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc le Père n'est pas là à regarder passivement son Fils souffrir, il souffre en lui, avec lui et par lui. C'est bien ensemble qu'ils font les choses, c'est un peu comme deux parents qui vont souffrir pour leurs enfants qui parfois sont sur le mauvais chemin. Eh bien c'est ensemble qu'ils souffrent, et c'est pas l'un qui demande à l'autre de souffrir. Donc il faut comprendre ça, donc ici c'est le Fils qui souffre en, avec et par le Père. Et donc ici, une des grandes souffrances du Christ, c'est de voir que son amour n'est pas compris et que finalement cette hostilité donne un sens d'inutilité à ce qu'il fait. Et il faut vraiment tout l'amour et la foi du Christ en son Père pour voir au-delà, au-delà. Et cet au-delà, si vous voulez, vous avez comme un voile qui est fait de l'indifférence, de l'hostilité des gens, des moqueries, qui pourrait faire dire au Christ « j'en ai marre, je m'en vais de ma croix, ils n'en valent pas la peine », eh bien au-delà, le Christ va nous aimer au-delà des apparences, qui sont représentées par l'hostilité, etc., l'indifférence, pour aller toucher le bon larron, qui lui dit, qui se repent, et ensuite qui demande à Jésus, non pas de l'aider comme l'autre larron pour revenir sur cette terre et avoir les mêmes valeurs de puissance et de pouvoir, sauve-nous avec, mais vraiment, sauve-moi comme toi tu le veux, selon tes valeurs, pour entrer dans ton royaume, etc. Et Jésus lui répond d'ailleurs, bien au-delà de son espérance, parce que Laron, lui, se réfère à un futur bien lointain, quand tu viendras inaugurer ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. L'amour du Christ va bien au-delà de ce qu'on pense. Ce n'est pas que pour après la mort, l'amour du Christ, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant que Dieu peut vous aider, et nous allons voir comment. Alors, il faut voir, comprendre la croix. Finalement, la croix, c'est le Christ qui va au-delà des apparences, l'amour de Dieu qui va au-delà des apparences, pour aller toucher le vrai moi, celui, cette soif de Dieu, cette lucidité qu'il existe en tout homme, pour la sauver au-delà des apparences. Alors, c'est là qu'est la signification profonde de la croix. Quand, par exemple, on vous dit « prier pour la conversion de quelqu'un », on se dit « mais il y a la liberté des hommes, je ne peux pas prier pour les gens, je vais violer leur liberté. Et puis si les gens refusent librement Dieu, je pourrais prier toute ma vie, ça ne changera rien. » Ce texte nous dit l'inverse. Ce texte nous dit quoi ? Ce texte nous dit que, au-delà des plus grandes hostilités, des plus grandes indifférences, il existe en tout homme un bon larron qui sommeille, qui symbolise la lucidité de sa propre situation. N'importe quel homme, si vous allez très profond, il y a en lui cette soif de Dieu, cette lucidité que sa vie sans Dieu n'est rien, le vide de sa vie sans Dieu, et il y a cet appel au secours qui existe en chaque homme malgré les apparences. Alors vous pouvez penser à des cas très précis, des gens pour qui vous priez, qui sont très fermés à la foi, et bien malgré ça, dites-vous bien, parce que quelque part dans ce texte, ils sont très hostiles, l'amour du Christ est poussé à l'extrême, et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que tu fais, nous n'en voulons pas, nous ne comprenons pas, et bien au-delà, il y a ce bon larron qui appelle à l'aide. Voilà. Et la croix du Christ, c'est cet amour qui va au-delà des apparences pour sauver tous les hommes. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans l'intercession. Ce qui fait que notre intercession ne va pas violer la liberté, ne violera la liberté d'aucun homme, c'est ce texte qui nous le dit. C'est la croix du Christ. Le Christ a planté sa croix au-delà des apparences. Grâce à la croix du Christ, le Christ est descendu aux enfers, comme le dit la première épître de Pierre au chapitre 3. Le Christ a planté sa croix, il est allé au-delà, il est descendu aux enfers, dans les plus grandes profondeurs, chercher ce bon larron, au-delà des apparences. Donc comme le Christ a été, si vous voulez, au bout de ce qu'il y a au fond de nous, de nos gouffres, et il a été le sanctifié de son amour, de son sang, alors, c'est donc en toute liberté que nous pouvons prier pour nos frères et nous ne violerons jamais leur liberté parce que le Christ, dans sa croix, donc, a pu aller dans ces profondeurs, dans ces enfers dans lesquels les gens s'enferment. Il a pu aller comme leur prêcher, si j'ose dire. C'est ce que dit la première épître de Pierre au chapitre 3. Et était comme prêcher à ce bon larron tout au fond du gouffre. Le Christ a vu la souffrance, il l'a pris sur lui. Il a promis à ce bon larron qui habite en chaque personne de l'emmener avec lui au paradis. Et c'est parce que le Christ était jusque-là que nous pouvons prier sans, comment dire, en toute quiétude et confiance, sans craindre de violer la liberté de qui que ce soit. Ce texte nous dit au-delà, il y a ce bon larron en tout homme. Et pour nous, c'est aussi un signe d'espérance. Au-delà de nos manques de foi, nos médiocrités, nos peurs, nos découragements, le Christ, par sa croix, est descendu aux enfers et a été prêché bien au-delà de ce qui, en nous, fait obstacle au Christ, que nous en soyons conscients ou pas. Le Christ a été plus loin. Il a été le sauver, le rédimer, le racheter. Et c'est pour ça que parfois nous prions pour changer et nous sommes découragés en disant « ça ne sert à rien, j'ai encore chuté ». Eh bien le Christ dans ce texte nous dit « j'ai été au-delà, je sais qu'il y a au-delà de tes faiblesses ce bon larron qui réclame de l'aide. Je te demande donc de continuer à prier parce qu'aujourd'hui, toi, ce bon larron qui est ton moi vraiment très profond, tu seras avec moi dans le paradis ». Alors pour nous-mêmes, je l'ai déjà abordé, mais nous sommes appelés donc à aimer à la manière du Christ. C'est très difficile, mais nous sommes appelés à nous souvenir d'une chose, Donc le Christ, j'ai dit, est ce geste de Dieu qui veut sauver l'homme par l'homme. Et Paul le dit dans la première épître aux Colossiens, lui, et donc nous, nous sommes chargés de prolonger cette croix du Christ, de compléter dans notre chair ce qu'il manque à la croix du Christ. C'est pour moi qu'il dit, c'est saint Paul, Colossiens chapitre 1, c'est très fort. Cela veut dire bien sûr que nous allons épouser, suivre ce mouvement de la croix du Christ. Et donc nous les hommes, nous allons comme nous emboîter dans cette liberté que le Christ a ouvert d'agir dans le cœur des autres hommes et dans notre propre cœur. C'est ainsi que le Christ peut continuer, que le Père par le Christ en nous peut continuer dans chaque situation, dans notre siècle, dans notre entourage, à continuer ce geste d'amour qui sauve l'homme par l'homme tout en respectant sa liberté. Alors comment y arriver? Eh bien ce texte nous donne de précieuses indications. Au-delà de l'hostilité ou de l'indifférence que manifestent les gens que nous aimons, pour qui nous prions, il y a ce bon larron, il faut en être persuadé, qui crie à l'aide. Et comme en ayant cet amour au-delà des apparences qui va se manifester par une charité concrète et par une intercession tout aussi concrète, eh bien nous ne faisons que suivre le Christ sur sa croix qui va la planter jusqu'à aller prêcher aux enfers à ce bon larron. Et la promesse, elle est là. Avec le Christ, le Christ promet au larron qu'aujourd'hui même il sera dans le paradis. Quand nous prions pour quelqu'un, quand nous intercédons, ne croyons pas que c'est pour l'avenir. C'est déjà maintenant que les choses se font, même s'il faut du temps, bien sûr. Eh bien, c'est maintenant que le Christ commence à racheter grâce à notre coopération d'êtres humains pour les autres êtres humains. Donc par notre intercession, notre amour. C'est aujourd'hui que Dieu agit. Même si le résultat ne se voit pas tout de suite, quand le larron a prié, le Christ est resté en croix encore quelques heures. Voilà. Et pour nous-mêmes, c'est la même chose. Il y a, au-delà de nos désespoirs et de nos découragements, par rapport à nos faiblesses, à nos lenteurs, eh bien le Christ nous dit « Je te sauve maintenant, aujourd'hui, grâce à ton geste de foi, qui consiste à continuer à prier, à continuer à faire des efforts malgré le découragement. Eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, je continue, je parachève mon action en toi. » Il faut en être persuadé. C'est aujourd'hui que tout se prépare, que tout se fait. Comme une plante, elle germe tous les jours, mais elle ne perce la terre que bien sûr, comment dire, elle faut un certain temps. Eh bien, c'est la même image. Et maintenant, je voudrais conclure ce texte en parlant bien sûr de la vie éternelle, parce que ici bien sûr le paradis c'est ça, on a parlé de la croix, Jésus vient nous sauver pour, comme le demande larron, pour nous amener dans le royaume, entre parenthèses, quand nous prions pour quelqu'un ou pour nous-mêmes, Jésus vient nous sauver, mais pas pour nous permettre de vivre mieux dans cette vie, avec les mêmes défauts, les mêmes envies et les mêmes valeurs. Il veut nous transformer, comme changer notre ADN, si j'ose dire, pour que nous vivions selon les valeurs du royaume, et de manière ultime, il vient nous préparer pour le royaume, la vie éternelle, le ciel, le paradis, comme il est dit ici. Eh bien, comment dire, cette vie, si vous voulez, avec dans notre monde où nous sommes, paraît bien hostile au monde invisible, à l'action de Jésus. Que ce soit dans le quotidien, dans le commerce, dans la vie quotidienne, dans nos gouvernants, etc. Cette vie paraît un petit peu comme tous ces pharisiens, comme cette foule, comme ce larron qui insulte Jésus, pas le bon larron à l'autre, c'est-à-dire hostile, ne comprenant pas, fermé à l'amour de Dieu, parce que tout simplement les valeurs sont différentes. Eh bien, au-delà, il y a ce bon larron qui crie, cette soif de Dieu qu'il existe dans notre humanité. D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette soif de Dieu, il n'y aurait pas de geste d'amour dans notre humanité. Tout serait pourri, ce serait l'enfer, au sens propre du terme. L'enfer, c'est des gens qui auront consciemment, librement refusé Dieu, et dans ce cas-là, Dieu étant l'amour, eh bien, c'est notre monde sans les touches de bon larron qui sont là, qui sont comme des portes ouvertes à l'amour de Dieu, que nous sommes, nous, les chrétiens. Et vous imaginez l'enfer. Vous mettez notre monde et vous enlevez tous les gestes d'amour, qui sont comme des portes ouvertes que Dieu a pu exploiter grâce à nos prières, grâce à ces bons larrons qui existent en chacun d'entre nous. Donc, il existe en ce monde des portes d'ouverture, des désespoirs, des soifs de Dieu. Mettez d'autres lunettes quand vous regardez les infos. Regardez, il y a des signes qui ne trompent pas. Bien, certes, ils sont bien timides, mais ils sont là. La nature aussi est un bel exemple que malgré la maladie, les tremblements de terre, etc., il y a quand même plus de belles choses que de mauvaises choses. Il y a plus d'arbres en bonne santé, de fleurs en bonne santé que d'arbres et de fleurs malades, hein, etc. Donc, déjà ça est un exemple. Et donc, nous savons que Jésus vient et qu'il promet à tous ces germes qui, dans notre société, dans notre vie, dans ce monde, de les épanouir dans la vie éternelle. Alors ça veut dire que pour nous-mêmes, malgré nos défauts qui semblent récurrents, malgré ces personnes qui peuvent se fermer à Dieu jusqu'à leur mort, eh bien ce que nous aurons fait comme acte de charité, de prière pour eux, n'est pas perdu. Parce que au-delà, Jésus a vu le bon larron en eux, et ce bon larron justement va pouvoir avoir les mains libres à la mesure de nos intercessions et de nos gestes de charité que nous aurons eus en cette vie. Et par là, nous contribuons au salut de ceux qui sont morts et pour qui nous avons prié et que nous avons aimé, même s'ils ne sont pas convertis tout de suite, et pour le salut de l'humanité. Parce qu'à la mesure de notre intensité dans l'amour, dont l'ultime manifestation est l'intercession, eh bien, par cet amour, eh bien, nous avons donné comme la voix à ce larron qui pourra crier, si ce n'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre, en face du Christ. Et c'est bien là que le Christ le sauvera et lui dira aujourd'hui, même sur avec moi dans le paradis. Même si, eh bien, à l'image de ce larron, il a fallu plusieurs heures pour que la promesse se concrétise avant que le Christ ne meure et que le larron ne meure, c'est un peu notre purgatoire. Mais c'est là. Vous voyez, au-delà des apparences, nous avons un sens, au-delà, comment dire, des échecs que peuvent représenter la mort de quelqu'un qui ne s'est pas converti, soyons toujours confiants que nous avons pu donner de la voix à ce larron qui pourra enfin parler quand il y aura ce face-à-face. Donc c'est ce sens. Donc si je résume, la croix du Christ, résumons, hein, le Christ est descendu, il a voulu aimer jusqu'au tréfond de notre médiocrité, il a été prêché jusque-là, ce qui explique qu'il a fallu qu'il endure la croix, le pire qu'il y avait à l'époque, plus les injures et l'indifférence, l'incompréhension. Il a fallu qu'il aille jusque-là pour pouvoir toucher le plus profond, le plus médiocre de tous les hommes, notre plus médiocre aussi. Une fois que le Christ est descendu jusque-là, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce cri qui le manifeste. Le Christ a pu rencontrer ce bon larron en nous et en nos frères, et il a pu lui faire la promesse de l'emmener. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est ce geste d'abandon qui a sauvé le larron. Donc le Christ est descendu jusqu'au plus profond de nous-mêmes, il a traversé la barrière de l'hostilité et de l'injure pour aller regarder au-delà des apparences par sa croix. Il a pu voir vraiment ce qu'il y avait dans le cœur des êtres humains, il a pu voir ce bon larron et il a pu lui faire cette promesse. C'est pour ça que la croix est mérite vénération et qu'elle est notre instrument de salut. Par la croix donc, nous savons que nous pouvons, sans avoir peur de violer la liberté de qui que ce soit, sans réticence, prier pour nos frères, agir pour eux malgré leur hostilité, nous ne violerons jamais leur liberté. Bien au contraire, nous ne faisons que prolonger cette descente aux enfers du Christ qui va aller chercher le bon larron. Souvenons-nous-en. Pour que nous prolongions cette action du Christ, donc jusqu'au bon larron par notre amour et notre intercession. De même pour nous, allons au-delà du voile du désespoir et du découragement, sachons qu'en nous-mêmes il y a ce bon larron, dans le pire de nos défauts, il y a ce bon larron qui crie au secours. Eh bien, en priant, en continuant nos efforts, nous donnons de la voix à ce bon larron et nous permettons au Christ d'aller réaliser sa promesse de l'amener avec lui au paradis. Et c'est aujourd'hui que le Christ agit dans le cœur de nos frères et agit en nos propres cœurs pour nous sauver et nous donner les valeurs du royaume, pour nous apprendre à vivre autrement. De même, eh bien, le Christ, par notre amour, notre intercession, notre vie de foi, par la vie de foi des chrétiens de l'Église, eh bien, respire, va prêcher à ce bon larron, et même si ce n'est pas dans ce monde, ce bon larron va trouver de la voie, un peu grâce à nous qui avons délier ses liens, si vous voulez, pour que, au-delà de la mort, ce bon larron puisse enfin s'exprimer devant le Christ. Donc ça va très loin, notre intercession, notre amour vont jusque-là. Est-ce que vous comprenez le sens de notre mission? Est-ce que vous comprenez que nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, de ne pas prier pour nos frères, de ne pas prier pour nous-mêmes? Nous n'avons pas le droit de nous laisser aller, à ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas, etc. C'est pour ça que le Christ insiste dessus. Alors évidemment, ça paraît difficile, mais justement, le Christ est venu parler au bon larron, et au-delà de nos réticences et de nos faiblesses pour aimer au-delà de tout amour humain, hein, aimer ceux qui ne nous aiment pas, eh bien, confions-le au Seigneur, comme le bon larron, demandons-lui de nous aider, et c'est aujourd'hui qu'il va nous donner la force, que cette force va germer, puisque nous avons dit que ce ne serait pas forcément immédiat, mais c'est aujourd'hui que cette force commence à germer, être arrosée par cet amour du Christ. C'est aujourd'hui donc que cet amour va germer pour que nous puissions vraiment prolonger l'action du Christ pour nos frères. Voilà. Alors j'espère que, ce commentaire vous a aidé. Je vous propose donc une petite prière et après nous relirons le texte avec quelques temps de silence et pareil avec cette prière que je vais faire avec vous, nous allons aussi avoir des temps de silence. Seigneur, merci pour cette parole et nous voulons te remercier d'avoir été jusqu'à la croix pour nous aimer. Vraiment, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs pour que ce sacrifice ne soit pas vain, pour que le bon larron nous parle et vraiment dise « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne ». Oui, Seigneur, c'est aujourd'hui que tu agis en nous, c'est donc aujourd'hui que nous t'ouvrons nos cœurs pour que ta croix puisse agir pleinement en nos médiocrités, en nos faiblesses, en nos douleurs, en nos blessures. Nous te donnons aussi nos frères, nous te les amenons. Nous pensons à des frères qui paraissent fermés, indifférents, hostiles. Eh bien, Seigneur, nous te demandons, oui, par notre amour, nous prolongeons vraiment, par notre amour humain, librement, nous, des humains, nous prions pour d'autres humains, nous épousons, la dynamique de l'incarnation et de la croix. Nous prions donc pour nos frères. Viens au fond d'eux, oui, viens vraiment nous aider d'abord à les aimer au-delà des hostilités, des apparences, de l'apparence d'inutilité que toi-même tu as connue devant ces injures qui te demandaient de te sauver toi-même. Nous te demandons au-delà des apparences de nous aider à les aimer et c'est maintenant que nous commençons en priant pour eux parce que nous savons qu'au-delà des apparences, de leur hostilité, de leur indifférence, il y a vraiment, ce bon larron. Viens, Seigneur, sauver ce bon larron. Oui, viens, Seigneur, aujourd'hui, agis en eux. Nous avons foi, nous avons confiance en ta puissance d'amour dans leur cœur. Amen. Et Seigneur, prépare-nous vraiment à avoir ces valeurs du royaume. Et continue à fertiliser, à faire germer toutes ces valeurs du royaume qui sont là dans ce monde, pour que tout soit mûr pour ta venue. Et nous prions aussi pour tous ceux qui vont mourir, afin que ce bon larron puisse vraiment parler de l'autre côté. Amen. Seigneur, aide-nous à vraiment revivre ce texte, à nous en nourrir. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu ». Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vives reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Chers amis internautes, je vous propose une dernière prière pour que vraiment cette parole fasse, comment dire, aille trouver jusqu'en nous le bon larron et trouve écho en nos cœurs. Oui Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire que les autres prophéties. Ouvre davantage nos cœurs vraiment à la vérité de ta parole et aide-nous à comprendre ce que tu as inspiré. Oui, par toi Jésus-Christ. Oui, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Fin de l'enregistrement.